Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, au micro Idrissa Seduga, édition du lundi 10 mars 2014, en direct de Washington. Avec Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, la tension reste vive dans divers endroits de Bangui, la capitale, après la mort de plusieurs personnes pendant le week-end. Les États-Unis s'inquiètent de la succession d'attaques contre les opposants rwandais exilés, heurts entre militants de l'opposition et les forces de sécurité lors d'un week-end mouvementé au Burundi. Les Russes resserrent leur étau autour de la Crimée, le premier ministre ukrainien attendu cette semaine à Washington. Un avion vietnamien aurait repéré des débris possibles de l'avion malaisien disparu entre Kuala Lumpur et Pékin, mais des avions et bateaux envoyés sur place n'ont rien retrouvé. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Moutou et les sports. Pour l'instant, le journal. En République centrafricaine, la tension est encore vive. Dans une partie de Bangui, au moins 15 personnes ont péri samedi et plusieurs autres blessées quand des violences à divers endroits de la capitale ont fait des morts donc, dans la capitale centrafricaine.
Selon des témoignages à Ndélé, dans le nord du pays, 4 combattants de l'ex-Séléka ont été tués dans un accrochage avec l'armée française. Retour sur la situation avec Timothée Donangmaï.
Bangui a renoué le week-end dernier avec la spirale de la violence. Un de nos correspondants sur place signale qu'une dizaine de civils non musulmans ont été tués dans des représailles menées par des musulmans au quartier PK5 en réponse à l'assassinat de 4 musulmans vendredi par des anti-balaka au quartier combattant non loin de l'aéroport de la capitale. Et alors que la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, célébrait la journée internationale de la femme avec des centaines d'autres femmes au siège du Parlement provisoire, des coups de feu éclatent autour du camp militaire Béal, tenu jusque-là par des ex-Séléka. Quelques heures plus tard, les anciens rebelles barricadent l'avenue des Martyrs. Dieu béni Guétémalé est lieutenant de l'ex-rébellion et commandant du site de Camp Béal.
Les anti-balakais, ils ont tiré sur mes éléments. Les éléments de la MISCA se sont retirés. Comme nos ennemis nous ont attaqués, on avait intervenu pour nous défendre. C'était comme ça que nos éléments ont eu à sortir sur l'avenue des Martyrs. Ils ont barricadé la rue et puis par après, les éléments de la MISCA étaient venus et puis on s'est séparés avec eux et puis ils ont enlevé tous les barrières.
Toujours à Bangui, dans le quartier de Yassimandji, 3 miliciens anti-balaka ont été tués dans un accrochage dans la soirée avec d'anciens militaires des FACA, les forces armées centrafricaines. Nikes Sombo, chef de poste à la base des anti-balaka de Yassimandji.
Nous avons installé notre base à Yassimandji pour mettre des ordres. Et les FACA qui sont là-bas, ils sont venus attaquer sans motif. Ils ont tué 3 éléments et il y a 3 blessures graves. Donc vraiment, je demande au gouvernement de mettre l'ordre vers Yassimandji pour faire vraiment une opération désarmement afin de ramener le calme à Yassimandji.
Ailleurs dans le nord du pays, au moins 4 combattants de l'ex-Séléka ont été tués samedi dans un affrontement avec des militaires français de l'opération Sangaris.
Les États-Unis s'inquiètent de la succession d'attaques contre les opposants rwandais exilés, une réaction à la brouille diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Rwanda en rapport avec l'attaque de la semaine dernière contre le domicile sud-africain de l'ancien chef d'état-major rwandais Faustin Nyamwasa. Les précisions de Jean-Roger Bion.
À la suite de cette attaque survenue mardi dernier, le gouvernement sud-africain a expulsé l'ambassadeur rwandais et une partie de ses collaborateurs. En réponse, Kigali a expulsé 6 diplomates sud-africains après les avoir accusés d'espionnage. Le département d'État américain a condamné l'attaque contre le domicile du général Nyamwasa, de même que le meurtre de l'ancien colonel rwandais Patrick Karegeya, retrouvé mort le 1er janvier dans un hôtel de Johannesburg. De manière générale, les États-Unis sont troublés par cette succession de ce qui apparaît comme étant des attaques politiquement motivées contre des exilés rwandais, a fait savoir William Stevens, porte-parole du Bureau des affaires africaines du département d'État. Les propos du président Kagame menaçant de conséquences ceux qui trahissent le Rwanda sont profondément préoccupants, a-t-il ajouté. William Stevens a exhorté le Rwanda à respecter les droits des membres de tous les partis et de tous les leaders politiques rwandais.
Libye, les États-Unis avertissent que toute vente non autorisée du pétrole placé à bord d'un navire battant pavillon nord-coréen par une milice indépendante dans un port libyen fera l'objet de sanctions et de procès. C'est ce qu'a affirmé tard hier soir la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki. Pour Washington, le pétrole en question appartient à la compagnie nationale pétrolière libyenne et à ses partenaires, dont des entreprises américaines. La marine libyenne et des milices pro-gouvernementales ont dépêché des bateaux à un port, aux mains donc d'une milice rivale, pour empêcher ce tanker battant pavillon nord-coréen d'exporter du pétrole sans autorisation gouvernementale.
Le gouvernement de Tripoli a interdit aux milices de vendre directement sur le marché international le brut libyen et son premier ministre Ali Zeidan a menacé de bombarder le pétrolier s'il n'obéit pas à ses ordres, ce qui pourrait se traduire, a-t-il reconnu, par un désastre pour l'environnement. Un porte-parole de la milice contrôlant le port a de son côté mis en garde le gouvernement contre toute tentative de bloquer le départ du tanker.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces russes ont resserré leur étau autour de la Crimée pendant que les autorités de ce territoire poursuivent leur projet de rattachement à la Russie. Selon un parlementaire russe, le Kremlin a mis de côté 1,1 milliard de dollars pour reconstruire l'infrastructure industrielle de la Crimée si elle décidait dans son référendum du 16 mars de se joindre à la Russie. Mais la chancelière allemande Angela Merkel a dit au président russe Vladimir Poutine lors d'une conversation téléphonique hier que ce projet de référendum appuyé par la Russie est illégal et viole la constitution de l'Ukraine.
Pour leur part, les dirigeants de l'Ukraine se sont engagés dimanche à ne pas abandonner un seul centimètre de territoire à la Russie, alors que des milliers de personnes prenaient part à des manifestations rivales pro- et anti-Moscou et que la tension restait vive sur la crise qui s'aggrave en Crimée. Henri Francisque fait le point.
Le premier ministre ukrainien par intérim, Arseniy Yatsenyuk, a conduit une cérémonie à Kiev commémorant le 200e anniversaire de la naissance du grand poète et héros national ukrainien Taras Shevchenko. Il a dit à la foule, nous citons, « Nos pères et nos grands-pères ont versé leur sang pour ce pays et nous ne bougerons pas d'un centimètre ». D'autres manifestations honorant Shevchenko ont eu lieu dans les principales villes de Crimée, Simferopol et Sébastopol, dans la ville orientale de Donetsk, et ailleurs, les activistes partisans de la Russie ont organisé des contre-manifestations en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. Le Premier ministre Yatsenyuk a annoncé qu'il viendrait cette semaine aux États-Unis pour des discussions de haut niveau sur le bras de fer avec la Russie sur la Crimée, une péninsule stratégique dans le sud de l'Ukraine avec une majorité russophone. Un fonctionnaire de la Maison-Blanche a confirmé les négociations, mais aucun autre détail n'était immédiatement disponible à Washington. Pendant ce temps, les forces russes resserrent leur étau autour de la Crimée en dépit d'un avertissement des États-Unis que l'annexion de la région fermerait la porte à la diplomatie. Hier dimanche, les Russes ont pris un poste frontière ukrainien dans l'extrême ouest de la Crimée, coinçant 30 personnes à l'intérieur. Moscou contrôle maintenant 11 postes frontières en Crimée, selon un porte-parole militaire ukrainien.
Les équipes de recherche et de secours vietnamiennes disent avoir cherché pendant la nuit, mais n'ont pas retrouvé les débris possibles d'avions repérés hier soir pendant les recherches d'un avion de ligne malaisien porté disparu depuis samedi avec 239 personnes à bord.
Les officiels vietnamiens ont dit qu'un avion volant à basse altitude avait repéré ce qui semblait être une portière de l'avion à 90 km de l'île de Tho Chu, située au large de la côte sud-ouest. Mais ils ont dit aujourd'hui que 6 avions et 7 bateaux envoyés à la recherche de l'objet n'ont rien trouvé. Auparavant, les responsables de l'enquête sur la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines avaient dit que des analyses radar montrent que l'appareil avait mystérieusement fait demi-tour avant de disparaître tôt samedi entre Kuala Lumpur et Pékin, sa destination finale. Le chef de l'armée de l'air malaisienne n'a pas fourni d'autres détails à ce sujet.
Catherine Ashton, chef de la diplomatie de l'Union européenne, avertit qu'il n'y a aucune garantie que les pourparlers nucléaires entre l'Iran et l'Occident, qui reprennent ce mois-ci, mèneront à un accord global.
Madame Ashton a tenu ses propos à Téhéran en présence de Mohamed Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Ses réunions avec les autorités iraniennes, a-t-elle ajouté, seront axées sur les liens bilatéraux, les conflits régionaux, les droits de l'homme et la reprise le 18 mars des pourparlers nucléaires. Au terme de l'accord intérimaire de novembre, l'Iran a accepté de limiter ses activités d'enrichissement d'uranium en échange d'un assouplissement des sanctions occidentales qui ont paralysé son économie.
La police dans le sud de l'Irak signale qu'un kamikaze a tué au moins 42 personnes et blessé 157 quand il a usé hier d'un minibus bourré d'explosifs à un point de contrôle.
Cet attentat a mis le feu à 50 voitures, tuant ceux qui étaient bloqués alors qu'ils attendaient que l'on fouille leur véhicule. C'était à l'entrée de la localité essentiellement chiite de Hilla, située à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Personne n'a revendiqué cette attaque, mais on sait que l'Irak fait face à la pire vague de violence qu'elle ait connue ces dernières années, en raison surtout d'un grand mécontentement au sein de la minorité sunnite et de la guerre civile en Syrie voisine. Plus de 1400 personnes ont été tuées cette année.
Voilà pour le journal Washington, la voix de l'Amérique. Merci Anne Albertson. Week-end mouvementé à Bujumbura au Burundi, où une manifestation de militants de l'opposition à l'occasion de la Journée internationale de la femme a donné lieu à des heurts avec les forces de sécurité. Des incidents ont aussi été signalés à la permanence du parti MSD dans la capitale burundaise. Vendredi, la haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Navy Pillay, avait déploré les restrictions imposées de manière croissante à la liberté d'assemblée et à la presse au Burundi. Pour une analyse de cette situation, Timothée Donangmai a joint à Bujumbura le juriste René-Claude Niyonguru, membre de l'Association pour la paix et les droits de l'homme.
Bon, le constat vient après plusieurs constats qui avaient déjà été faits, soit par les organisations de défense des droits de l'homme, soit par les partis de l'opposition au niveau local. Des inquiétudes relayées aussi par plusieurs rapports des organisations internationales, dont Human Rights Watch, International Crisis Group et bien d'autres observateurs qui avaient continuellement alerté l'opinion nationale et internationale, qu'il y a vraiment une tendance manifeste à la restriction des libertés, notamment à l'encontre des partis politiques, de l'opposition, à l'encontre des associations de la société civile, à l'encontre des médias. Cette série de dénonciations, de prises de position continue aujourd'hui. Et ça n'a pas été étonnant que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme puisse aussi s'exprimer, d'autant plus que le bureau des Nations Unies, ici au Burundi, continue à suivre la situation de près et qu'elle fournit à ce titre des informations assez détaillées qui, le plus souvent, sont même le résultat des enquêtes, des constats sur place.
Il y a eu pourtant ces concertations de mars 2013 entre le gouvernement et les partis d'opposition et dont l'objectif était justement de revenir à une vie démocratique apaisée au Burundi avant les élections de 2015. Alors, est-ce que finalement ça n'a rien donné?
Bon, on pourrait dire que ça n'a rien donné, d'autant plus que les faits sur terrain démentent les espoirs qui avaient été le résultat de ces discussions. L'initiative de l'Assemblée nationale, c'est vrai, les partis politiques de l'opposition, le parti au pouvoir et bien d'autres groupes sociaux, notamment les confessions religieuses et les organisations de la société civile, avaient participé dans ce vaste dialogue national qui, à un certain moment, visait vraiment à apaiser la situation, à diminuer les tensions et à orienter les pistes de réflexion dans le sens d'assainir le climat politique. C'était d'ailleurs une initiative du Parlement qui suivait aussi d'autres initiatives, notamment du Bureau des Nations Unies au Burundi, qui avait antérieurement abouti à l'élaboration d'une feuille de route pour les élections transparentes de 2015, où il y avait eu deux sessions de discussion, mais malheureusement, il a semblé que le parti au pouvoir n'a pas voulu continuer dans cette logique de consensus politique et a plutôt continué dans l'affaiblissement des partis politiques de l'opposition, ce qui s'est passé très récemment avec le parti prenant qui était le partenaire politique, membre du gouvernement, le partenaire politique, dirait-on, de taille du parti au pouvoir, a montré aux yeux de tout le monde, les observateurs nationaux et internationaux, que finalement la volonté de dialogue n'y était pas, que c'était peut-être une réaction de façade du parti au pouvoir, du pouvoir, juste parce qu'il y avait eu ces voix qui réclamaient le dialogue.
C'était René-Claude Nyongourou, membre de l'Association pour la paix et les droits de l'homme, qui nous parlait de Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays.
Pas de défilé ni de marche dans la province du Sud Kivu, comme sur toute l'étendue de la RDC, à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2014. Ainsi en a décidé depuis l'année dernière la ministre congolaise du genre, famille et enfants. À Bukavu, les femmes ont commémoré cette journée dans la méditation et à travers des séances de réflexion. Reportage de notre correspondante dans la capitale du Sud Kivu, Jolie Kamuntu.
Les autorités provinciales ont organisé une cérémonie le 8 mars marquant le lancement des activités du mois de la femme. Ces autorités disent témoigner leur volonté d'accompagner les femmes dans leur lutte et mettre en application les lois pour la promotion du genre. Elles insistent cependant sur le rôle des parents dans l'éducation de la jeune fille. Jacqueline Ngengele est chef de division genre, famille et enfants au Sud Kivu.
Le message clé s'adresse d'abord aux mamans. Qu'elles comprennent que nous, mamans, nous devons tout faire pour faire étudier nos enfants, surtout filles. Parce qu'on s'est rendu compte que la majorité des filles qui subissent des violences sont des filles analphabètes. Parce que quand une fille est instruite, elle sait comment faire ce qu'on appelle gagar de fou. Nous devons oublier le moment passé où nous nous mettions dans les rues en train de défiler avec des pagnes. Il est temps maintenant de sensibiliser, d'éduquer, d'informer et de former les autres femmes d'abord et surtout la jeune fille.
Du côté des femmes journalistes également, la réflexion sur les défis professionnels a été menée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Madame Louise Bonga Bonga de la Radio-Télévision nationale congolaise du Sud Kivu a eu ceci comme impression.
Nous constituons une force. Nous ne devons pas nous négliger. Les différentes violences qui existent à la RTNC, nous devons les signaler, nous devons les prononcer, nous devons nous lever parce que nous constituons une force pour pouvoir prononcer ces différentes violences afin que les autorités puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça à côté.
À cette même occasion du 8 mars, la coalition des femmes leaders réunis dans le cadre du groupe de travail Women in Leadership avec l'accompagnement de International Medical Corps organise une tribune d'expression populaire du 8 au 11 mars. Selon la secrétaire exécutive de Women in Leadership, cette activité est organisée pour permettre aux femmes des différentes catégories de s'exprimer pour adresser leurs revendications aux autorités compétentes. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Richard Canan, citoyen journaliste en Bujumai au Kasaï-Oriental pour la Voix de l'Amérique. L'actualité reste dominée par les activités en rapport avec la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, en Bujumai a servi de lancement officiel de ces activités. Il y a eu le Conseil provincial de la femme qui a organisé une grande conférence debout au club privé de la MIBA. Mais la grande actualité qu'il faut annoncer, c'est que officiel de ce qu'on a dénommé Lubanza Loaba Mamou, entendez par là la parcelle ou le foyer de maman, par une fille du Kasaï oriental vivant en Belgique qui a pris l'initiative à la suite de la Ligue de femmes du Kasaï qui vivent en Europe. Elles ont préféré avoir une correspondance locale. C'est ainsi qu'il y a la maison de la femme au Kasaï occidental à Kananga, une maison qui a été offerte par les Sœurs de la Charité pour la ville de Kananga, en province du Kasaï occidental. Et au Kasaï oriental, c'est un fils de la province, troisième gouverneur, ancien PAD de la MIBA, qui a offert un cadre pour les Lubanza Loaba Mamou. Et les lancements officiels des activités de Lubanza Loaba Mamou ont eu lieu le même jour, c'est-à-dire samedi 8 mars, pour le début des activités.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Washington, la voix de l'Amérique, le monde aujourd'hui, édition matinale. Les sports maintenant avec Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Les 16e de finale de la Ligue des champions ont donné leur verdict.
Le tenant du titre, Al Ahly, a failli laisser sa peau face aux Young Africans de Tanzanie. Al Ahly s'est qualifié de justesse à l'issue de l'épreuve des tirs au but 4-3. Rejoignent donc Al Ahly en 8e de finale, le Zamalek d'Égypte, Inkana de Zambie, AS Real du Mali, Oroya de Guinée, ES Sétif d'Algérie, AS Léopard du Congo, Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud, Ali Benghazi de Libye, Coton Sport du Cameroun, TP Mazembe de la République démocratique du Congo, le Sewe Sport de Côte d'Ivoire, le CS Faxien de Tunisie, Al Hilal du Soudan et AS Vita Club de la RDC, la République démocratique du Congo. Une équipe manque à l'appel, vous l'avez constaté, Idrissa Seydou Dia, pour compléter le tableau des 16 formations qui iront à l'assaut des 8e de finale. On connaîtra l'élu ce soir à l'issue de la rencontre Espérance de Tunisie, Gor Mahia du Kenya qui a été retardé de 24 heures. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le stade de Rades ont rendu le déroulement de la partie impossible.
Jean-Roger, vous allez nous donner aussi les qualifiés pour les 8e de finale en ce qui concerne la Coupe de la Confédération.
Oui, et retenez ces noms, Idrissa, étoile du Sahel de Tunisie, AS Kigali du Rwanda, Zesco United de Zambie, Ao Mine du Zimbabwe, Bayelsa United du Nigeria, l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Maghreb Fest du Maroc, Supersport United d'Afrique du Sud, El Jida du Maroc, CS Constantine d'Algérie, Ismaili d'Égypte, Petro Atletico d'Angola, Wadi Degla d'Égypte, Djoliba du Mali, Wari Wolves du Nigeria et le CA Bizertin de Tunisie.
Merci Jean-Roger pour tous les résultats et commentaires des événements sportifs du week-end. Ne manquez pas aujourd'hui le magazine sportif de la Voix de l'Amérique Sporama à 19h, temps universel. Maintenant, nous retrouvons Roger Muntu et sa musique. Bonjour Roger.
Salut Idrissa. Massa 2014, au marché des arts et du spectacle africain, a pris fin le week-end dernier. Il s'est bien déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, jusqu'au 8 mars. Le groupe nigérien Peace Square était présent, nous a raconté le producteur malien et grand auditeur de Haram Show, Mori Touré, qui était présent d'ailleurs.
Bah écoute, Roger, je suis extrêmement content parce que le Massa, c'est le plus grand marché des arts et des spectacles qui était avant d'Abidjan et aujourd'hui qui est devenu africain. Il y a plus de 150 pays représentés à travers plus d'une cinquantaine de groupes avec plus de 3000 artistes venus d'Afrique un peu de partout. Wow. L'Afrique francophone, l'usophone, l'Afrique francophone. Donc vraiment, on dit merci aux autorités ivoiriennes de faire revenir ce grand marché avec tous les professionnels du métier qui sont là. Vraiment, on est content. Vraiment, je crois que la Côte d'Ivoire est en train de ressortir culturellement de plus belle. Nous, nous sommes les colporteurs de la musique africaine. Ouais. Quand on va passer, il y a notre génération qui viendra. Mais il faut qu'on laisse nos marques. Nos marques, ça, c'est de valoriser cette richesse culturelle. Et c'est, nous, notre métier, c'est de mettre en valeur l'Afrique musicalement et culturellement.
Les Peace Square ont agrémenté la soirée d'ouverture. Alors Roger, devrions-nous en conclure que le bilan était positif ?
Idrissa, d'après Mori, le bilan et les impressions des uns et des autres diffèrent diamétralement. La plupart des participants se félicitent certes des contacts noués, des échanges effectués avec les visiteurs, mais ils relèvent aussi diverses faiblesses, dont le déficit des communications par exemple.
B-Square, Bizibadi. Merci Roger.
Bonne journée Idrissa.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel.
I'm Cause if I got you, I go take you slowly.
You can run away, I will do my way, oh baby. Ooh baby, I will take all my clothes and get ready for you. But you know, say if I give you one thing, you go search it, you know, go fit, run the MIC, cause you go lose control. Hey,
oh, 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 oh. Your busy body, you go search it, I go to still, run the MIC.
Le monde aujourd'hui sur la voix de l'Amérique en direct de Washington. Anne Albertson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
En République centrafricaine, la tension reste vive dans divers endroits de Bangui, la capitale, après la mort de plusieurs personnes pendant le week-end. Concernant la Libye, les États-Unis avertissent que toute vente non autorisée du pétrole placé à bord d'un navire battant pavillon nord-coréen par une milice indépendante dans un port libyen fera l'objet de sanctions et de procès. Et puis les États-Unis s'inquiètent aussi de la succession d'attaques contre les opposants rwandais en exil. Les Russes resserrent leur étau autour de la Crimée, le premier ministre ukrainien attendu cette semaine à Washington. Enfin, un avion vietnamien aurait repéré des débris possibles de l'avion malaisien disparu entre Kuala Lumpur et Pékin, mais des avions et des bateaux envoyés sur place n'ont rien trouvé.
Merci Anne pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seruya, Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.